Il est 7h à Dakar, 9h à Paris, 3h à Tampa en Floride. C'était RFI Matin pour une heure encore et le journal avec vous, Léa Boutin-Rivière, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. 1 million de personnes évacuées, les autres se préparent à la catastrophe d'ici quelques heures. L'ouragan Milton devrait frapper les côtes de la Floride aux États-Unis. Avec des vents au-delà des 260 km/h, il pourrait être le pire cyclone du siècle écoulé dans le pays.
Nouvelles frappes israéliennes contre le Liban, Beyrouth et le sud du pays ont été visées.
Et le cessez-le-feu que la communauté internationale appelle de ses voeux semble s'éloigner chaque jour un peu plus. Hier, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu « Si le Hezbollah poursuit ses attaques, le Liban connaîtra le même sort que Gaza, dévasté et où les déplacés n'ont plus nulle part où aller. » Dans ce journal également, Emmanuel Macron en visite auprès d'une brigade ukrainienne formée dans l'est de la France. Et au Kenya, les députés votent en faveur de la destitution du vice-président.
Aux États-Unis, des millions d'habitants se préparent au pire.
Quelques semaines à peine après le passage du cyclone Helen, l'ouragan Milton est attendu dans les prochaines heures en Floride, dans le sud-est américain, et il pourrait être encore plus dévastateur. Milton s'est encore renforcé cette nuit avec des vents au-delà des 260 km/h. Il est repassé dans la nuit en catégorie 5, l'échelon le plus élevé. Un ouragan historique donc. 1 million de personnes ont été appelées à évacuer en Floride. Et hier, le président Joe Biden a de nouveau exhorté la population à fuir, David Thompson.
Oui, ces vents dépassent les 260 km/h et son diamètre ne fait que s'élargir. L'ouragan Milton va littéralement lessiver tout le centre de la Floride, de la mégalopole de Tampa, largement vidée de ses 3 millions d'habitants, à celle d'Orlando avec ses parcs d'attractions comme Disney World, évidemment fermés. C'est l'une des zones les plus peuplées et construites de l'État. Les autorités s'attendent donc à des dégâts d'ampleur historique. Depuis la Maison-Blanche, le président des États-Unis, Joe Biden, appelle les derniers récalcitrants à évacuer au plus vite.
C'est peut-être le pire ouragan du siècle. J'appelle tout le monde qui se trouverait sur la trajectoire de l'ouragan à écouter les consignes des autorités locales et à évacuer dès maintenant. Vous auriez déjà dû le faire, je n'exagère pas. C'est une question de vie ou de mort.
Et les habitants ne se font pas prier pour partir, ils fuient Tampa en masse. L'impact est prévu pour aujourd'hui et c'est surtout la montée des eaux de plus de 4 mètres que craignent les autorités et les habitants. En plein cœur de ces mégalopoles, le scénario du pire pour la Floride, tout juste 2 semaines après le passage d'un autre ouragan, Helen, qui a laissé plus de 235 morts dans son sillage.
Notre correspondant en Floride, David Thompson, et l'ouragan Helen, justement, a été rendu plus violent à cause du changement climatique. C'est ce qu'indique une étude d'un réseau scientifique publié aujourd'hui. Ce rapport réaffirme aussi que l'utilisation des énergies fossiles a rendu ces phénomènes plus probables. Bref, conclut le document, tous les aspects de l'ouragan Helen ont été amplifiés par le changement climatique.
Et c'est pour lutter contre les conséquences de ce dérèglement qu'un sommet était organisé hier à Berlin.
Il s'agit de la conférence de Berlin sur la sécurité climatique organisée tous les ans depuis 2019 par le ministère allemand des Affaires étrangères. Au fil du temps, ce rendez-vous est devenu le premier espace de discussion sur le sujet. Hier, la capitale accueillait donc près de 300 représentants de gouvernements et d'institutions internationales, mais aussi de la communauté scientifique, des ONG et de la société civile du monde entier. Pour commencer, Stéphanie Schuller, une petite précision. Lorsqu'on parle de sécurité climatique, de quoi s'agit-il exactement ?
C'est un terme qui définit les effets du changement climatique sur la sécurité et donc la paix. Et cela commence par une réflexion simple, explique Ibrahim Wambaye. Il dirige le Clean Technology Hub, un centre de recherche et de développement au Nigeria.
Nous avons un proverbe en Afrique qui dit « Un homme qui a faim est un homme en colère ». Et ce que fait le changement climatique, c'est qu'il prive les populations de leurs moyens de subsistance.
Sécheresse, incendies, inondations ou encore la montée du niveau de la mer affecte non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi l'accès au logement, à la santé ou à l'éducation. Le changement climatique menace donc la sécurité humaine dans son ensemble.
Et quelles en sont les conséquences ?
Eh bien, elles sont multiples dans des régions aux moyens financiers et aux institutions étatiques déjà fragiles. Les populations affectées n'ont d'autre choix que de se déplacer, la plupart du temps, à l'intérieur de leur propre pays, ce qui cause tensions et conflits autour de la rareté des ressources. Yanani Vivekananda dirige le programme de diplomatie climatique au sein d'Adelphi, le centre de recherche qui co-organise la conférence de Berlin.
Si à ce moment-là, la légitimité d'un gouvernement est déjà contestée et que les effets du changement climatique ajoutent une pression supplémentaire sur sa capacité à assurer la sécurité physique de sa population, cela peut le déstabiliser davantage.
Avec pour résultat que des populations se tournent vers des partis d'opposition ou, dans d'autres cas, vers des groupes armés. Parmi les 20 pays au monde aux besoins humanitaires les plus importants en raison de conflits, 16 sont aussi les plus vulnérables aux effets du changement climatique.
Et on peut donc dire, Stéphanie, qu'on assiste à une nouvelle façon d'appréhender le phénomène.
Absolument. Aujourd'hui, le changement climatique est au cœur de nouvelles stratégies des forces armées du monde entier. Les services de renseignement y consacrent des unités spécialisées, car, comme l'explique Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères,
la crise climatique est le plus grand défi sécuritaire de notre époque. Nous ne pouvons plus appréhender les questions de sécurité sans tenir compte du défi climatique. Et dans le même temps, la lutte contre le changement climatique peut être une contribution importante à la politique de sécurité mondiale.
En clair, financer des actions d'atténuation, mais surtout d'adaptation, notamment dans les pays les plus vulnérables mais les moins responsables du réchauffement planétaire, c'est prévenir les conflits. Et tous les participants hier à la conférence de Berlin s'accordaient sur un point. Dans un ordre mondial bouleversé, la lutte contre le changement climatique constitue, pour l'instant encore, l'un des rares thèmes capables de réunir les puissances autour de la table.
Stéphanie Schuller du service environnement de RFI.
RFI 10h06 à Beyrouth, une fois de plus, des combats au sol cette nuit entre Israël et le Hezbollah.
Le groupe armé libanais affirme ce matin avoir mis en échec deux tentatives d'incursion dans le sud du pays. Israël, de son côté, déclare avoir intercepté deux projectiles tirés du sol libanais. Des troupes israéliennes ont aussi essuyé des tirs d'artillerie à la frontière. Et puis les affrontements se poursuivent également dans la bande de Gaza. D'après une agence de presse palestinienne, 12 personnes sont mortes dans des raids hier. Plus de 41 000 ont été tuées en un an dans la clave palestinienne, d'après les autorités du Hamas. Mais il y a aussi les innombrables blessés de guerre. Une petite partie d'entre eux a pu se rendre au Qatar pour obtenir des soins. Ils sont 1700 à être abrités dans une résidence près de Doha. La moitié sont des enfants. Une parenthèse loin de la vie normale, loin de leurs repères. Julien Chavan a rencontré certains de ces déplacés.
Rouaïda a été blessée le 11 octobre. Cette mère de famille a été amputée de sa jambe droite après un bombardement israélien sur son appartement de Jabalia. Sa fille de 11 ans a été tuée. Ses 4 autres enfants sont toujours bloqués à Gaza.
Je leur parle une fois par mois. Mes parents, qui sont toujours dans le nord de la bande de Gaza, les appellent. Et ensuite, on discute par message beaucoup.
Cela fait un an que Rouaïda est loin de sa famille. Un an passé dans l'angoisse permanente pour ses enfants. Un an sans savoir si elle pourra retourner un jour à Gaza. On rencontre aussi Mamdou, amputé de sa jambe droite. Ce fonctionnaire de Gaza a pu rapatrier toute sa famille ici.
Nous voulons retourner à Gaza et y vivre en sécurité, comme dans le reste du monde. Donnez-moi une tente et j'y retourne.
Le Qatar a dépensé sans compter pour accueillir ses blessés de guerre, nourris, logés, soignés, aux frais du richissime émirat. Mais ces déplacés ne sont que de passage. Il leur faudra partir quelque part un jour. Doha ne les considère pas comme des réfugiés. Julien Chavan, de retour de Doha, RFI.
Et face aux conséquences terribles de la guerre, il est impératif de ne pas faiblir dans les efforts pour obtenir un cessez-le-feu. C'est ce qu'a martelé hier la diplomatie britannique, qui a rappelé la nécessité de faire rentrer de l'aide à Gaza, mais aussi de mettre fin au cycle de la violence. Un appel que n'a, semble-t-il, pas entendu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce dernier a promis hier soir que le Liban connaîtrait les mêmes destructions et la même souffrance que l'enclave palestinienne si le Hezbollah poursuivait ses attaques. Une prise de parole malvenue, a jugé hier le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.
Si cette provocation était suivie d'effets, cela entraînerait le Liban, pays ami de la France, déjà si fragile, dans le chaos. Et cela poserait pour Israël des problèmes de sécurité plus importants encore que ceux qui prévalaient avant les opérations militaires au Liban.
Le chef de la diplomatie française invité par nos confrères sur France 2. Michel Barnier, lui, peut souffler, en tout cas pour le moment. Le Premier ministre français a survécu hier à une première motion de censure contre son exécutif. Le texte déposé par l'Alliance de gauche du Nouveau Front populaire n'a récolté que 197 voix sur les 289 requises. Mais l'exécutif pourrait bientôt faire face à un nouveau défi, puisqu'il risque de devoir recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire valider le budget. Le président Emmanuel Macron en visite dans l'est de la France aujourd'hui, avec à ses côtés le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Oumerov. Alors que les frappes russes sont ininterrompues, 3 personnes sont mortes hier à Dnipro, 2 autres à Kharkiv. Le chef de l'État rend pour la première fois visite aux soldats ukrainiens formés en France. Une brigade complète de 2300 hommes. Franck Alexandre, c'est la première fois qu'un pays européen forme une unité de ce gabarit.
L'histoire retiendra que la brigade 155 de l'armée ukrainienne est née en France dans les camps de Champagne. Jusqu'à présent, les formations de soldats ukrainiens en Europe ne dépassaient pas le volume d'un bataillon, soit quelques centaines d'hommes. Cette fois, l'échelle n'est plus la même, car une brigade, c'est 2300 soldats. C'est une petite armée terrestre complète. Les 2300 soldats ukrainiens sont tous déjà arrivés, essentiellement des jeunes sans véritable expérience. En revanche, tous les cadres sont aguerris. La formation, qui durera plusieurs mois, se fera donc dans les conditions du combat actuel en Ukraine, avec des réseaux de tranchées reconstitués, des drones omniprésents et même le bruit de la guerre reproduit pour coller à la réalité. Surtout, l'ensemble du matériel destiné à armer cette brigade sera cédé. Les Ukrainiens repartiront avec 128 véhicules de transport de troupes, dits de l'avant blindé, 18 chars légers MX-10, plusieurs canons César et des dizaines de camions pour la logistique. Un projet unique et ambitieux qui a pour objectif, disent de haut gradé, de régénérer au plus vite l'armée ukrainienne très éprouvée par presque 3 ans de guerre.
Précision signée Franck Alexandre.
Il est 10h12 à Nairobi, au Kenya, où pour la première fois, la procédure de destitution du vice-président a été enclenchée.
Les députés ont voté hier en faveur du départ de Rigathi Gachagua pour 11 motifs différents, notamment des accusations de corruption. Et la défense du principal intéressé n'y a rien fait. En froid avec le président Ruto depuis des mois, Rigathi Gachagua dénonce, Alban Tiroir, un complot politique et des accusations de pure propagande.
Pendant près de 2 heures, le vice-président a tenté de se défendre face aux députés. Cette motion de destitution lui reproche, entre autres, des faits de corruption, d'avoir incité à la division ethnique ou encore d'avoir fait preuve d'insubordination envers le président. Rigathi Gachagua a rejeté ces accusations dans le détail avec un épais dossier monté par ses avocats présentant diverses vidéos et documents. Il a nié par exemple son implication dans un scandale de corruption d'approvisionnement de moustiquaires. Il s'est aussi défendu d'avoir accumulé de manière inexplicable un patrimoine immobilier colossal estimé à 36 millions d'euros. Plusieurs propriétés correspondraient selon lui au patrimoine de son frère défunt. Mais ces explications n'ont pas réussi à convaincre les membres de l'Assemblée nationale présents qui se sont prononcés dans la foulée. 281 d'entre eux ont voté en faveur de sa destitution, bien au-delà des 233 voix nécessaires. Seuls 44 députés ont voté contre. La motion de destitution doit désormais être débattue, puis votée au Sénat, où 2/3 des voix seront nécessaires pour qu'elle soit approuvée. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et puis comme tous les mercredis, RFI vous emmène au cinéma. On découvre aujourd'hui l'histoire de Souleymane.
Le long métrage réalisé par Boris Lochkin propose pendant un peu plus d'une demi-heure, de plonger dans le quotidien d'un jeune livreur à vélo guinéen dans les rues de Paris, à quelques jours de son entretien de demande d'asile. Le film a été récompensé au Festival de Cannes dans la section Un certain regard par le prix du jury et celui du meilleur acteur pour Abou Sangaré. Elisabeth Le Quéré.
En 2019, Boris Lochkin traçait dans Camille le portrait de la photographe Camille Lepage, tuée en Centrafrique à l'âge de 26 ans. C'est un autre visage inoubliable que nous rive sa caméra dans son nouveau film. Sans papier, Souleymane livre des repas à vélo. Le jeune migrant vit dans l'espoir que sa demande d'asile sera retenue. Et pour mettre les chances de son côté, il s'est inventé tout un parcours de réfugié politique.
Souleymane.
Boris Lochkin.
C'est des gens qui sont dans une situation absolument précaire et s'ils ont des papiers, tout d'un coup, leur vie change. Tout d'un coup, ils peuvent imaginer de chercher un vrai travail. En gros, commencer à vivre une vraie vie alors que tant qu'ils n'ont pas de papiers, ils sont comme en prison.
Devant la caméra de Boris Lochkin, un jeune acteur non professionnel, Abou Sangaré, dont l'histoire résonne avec celle de Souleymane.
Je suis arrivé en France en 16 ans, quand j'ai eu ma majorité, j'ai demandé un titre de séjour, ça a été rejeté et je sais ce que ça fait d'attendre ces papiers ici. À ce niveau-là, je me mets dans sa peau.
La première demande de régularisation d'Abou Sangaré a été refusée, la deuxième aussi, Une troisième est en cours, qui celle-ci a de bonnes chances d'aboutir, à la faveur du prix d'interprétation à Cannes et du succès critique du film.
L'histoire de Souleymane dès aujourd'hui dans les salles obscures.
Merci Léa Boutin-Rivière, bonne journée. 9h15 à Paris, à suivre dans le prochain quart d'heure, la Grande-Bretagne et sa démographie revitalisée par l'immigration. On appelle Emeline Vin à Londres. Et puis question d'environnement, Igor Strauss, comment exploiter de façon durable et responsable les minerais de la transition, indispensables à la lutte contre les bouleversements climatiques. Mais d'abord, coup d'œil à la presse internationale avec vous, Frédéric Couteau. La tempête du siècle est à la une.
Oui, c'est Joe Biden lui-même qui a qualifié ainsi l'ouragan Milton qui devrait s'abattre sur la Floride dans les prochaines heures. Milton est repassé hier en catégorie maximale avec des vents jusqu'à 270 km/h. Des millions d'habitants ont fui. Cet ouragan fait la une, bien sûr, des médias américains. Hier, rapporte le New York Times, un présentateur météo s'est effondré en direct. John Morales, l'un des plus anciens météorologues du sud de la Floride, présentait son bulletin météo sur WTVJ NBC6 à Miami lorsque sa voix s'est brisée, relate le journal. À ses côtés, une image de l'ouragan Milton tournoyait, une image géante, furieuse et rouge. La tempête venait de passer en catégorie 5 et se dirigeait vers la côte ouest de la Floride, dont une grande partie est encore en lambeaux. Après avoir été frappée par l'ouragan Helene il y a 15 jours, c'est un ouragan incroyable, 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 a répété John Morales en fermant les yeux et en secouant la tête. Excusez-moi, c'est tout simplement horrible, a-t-il dit, avant donc de s'effondrer. La vidéo de ce bulletin météo a été visionnée près de 2 millions de fois sur les réseaux sociaux aux États-Unis.
Tous les ingrédients d'une catastrophe sont réunis, relève le Wall Street Journal.
Oui, Milton devrait frapper de plein fouet la ville de Tampa et sa région, une région particulièrement vulnérable, pointe le journal. La raison principale, un plateau continental peu profond au large de la côte et donc un effet d'entonnoir dans la baie de Tampa qui crée le potentiel d'une énorme accumulation d'eau et donc des risques importants d'inondations. De plus, poursuit le Wall Street Journal, cette zone métropolitaine de Tampa a connu un boom de construction au cours des dernières décennies qui a fait grimper la population à plus de 3 millions d'habitants. Une grande partie du développement urbain s'est faite sur des zones de faible altitude avec peu de systèmes de drainage. En 2010, rappelle le journal, le Conseil de planification régionale de la baie de Tampa avait élaboré un plan catastrophe dans lequel une hypothétique tempête de catégorie 5 semblable à Milton frappait le centre-ville. Ce plan prévoyait que la ville compterait environ 2000 morts et près de 250 milliards de dollars de dégâts.
Et l'arrivée de l'ouragan Milton sur la Floride relance le débat aux États-Unis sur le changement climatique, un débat qui s'invite sur le terrain politique.
C'est ce que souligne le Washington Post. Dans moins d'un mois, les électeurs choisiront entre des démocrates qui acceptent la réalité du changement climatique et des républicains qui ne l'acceptent pas. Le Washington Post rappelle la position à ce sujet de Donald Trump qui qualifie le changement climatique de canular et qui s'insurge fréquemment contre les sources d'énergie propre telles que le solaire et l'éolien, sans parler, poursuit le journal, de certains républicains qui avancent une théorie du complot hallucinante pour expliquer la tempête en affirmant que certains peuvent contrôler la météo. Pendant ce temps, soupire le Washington Post, Helene et Milton ainsi que les ouragans superpuissants qui suivront ne se soucient pas de savoir si les États qu'ils traversent sont rouges ou bleus, républicains ou démocrates. Il en va de même pour les sécheresses, les incendies de forêt et les vagues de chaleur. Que cela nous plaise ou non, conclut le journal, le changement climatique est un sujet d'intérêt commun. Nous sommes tous concernés.
Enfin, le Monde à Paris revient sur la stratégie de Donald Trump.
Il a fait de ces ouragans à répétition un sujet de controverse, affirme le journal. L'ancien président et ses alliés ont organisé en ligne une campagne de mensonges et de désinformation à des fins électorales jamais vues sur un tel sujet. Elle vise à mettre en cause l'administration Biden pour sa supposée inaction, c'est-à-dire, précise le Monde, imposer l'idée d'un abandon de la population par l'administration Biden-Harris, notamment avec des images inventées de toutes pièces par l'intelligence artificielle, puis diffusées sans avertissement sur les réseaux sociaux. L'important n'est plus que ces images soient réelles, mais qu'elles puissent l'être. Et le journal de conclure, dans des états clés comme la Géorgie ou la Caroline du Nord, rien n'est négligeable à 28 jours maintenant du scrutin présidentiel prévu le 5 novembre.
Frédéric Couteau, vos revues de presse à retrouver sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À Paris, il est 9h19. Et on prend la direction de la Chine, la province de Shaanxi dans l'est du pays. Une région qui connaît un vrai rebond économique, touristique, depuis la sortie, le 20 août dernier, d'un jeu vidéo Black Myth Wukong, inspiré du roman classique chinois Voyage vers l'Ouest. On y suit un singe anthropomorphe, inspiré du héros du roman Sun Wukong, le tout dans des décors traditionnels authentiques. Le reportage de notre envoyée spéciale permanente à Pékin, Cléa Broderst.
Voyage vers l'Ouest, c'est l'une des œuvres littéraires les plus populaires d'Asie de l'Est. Adaptée à de nombreuses reprises au cinéma, à la télévision ou au théâtre, Sun Wukong, le singe et son bâton, traversent la culture et s'est immiscé en Occident sous les traits de Son Goku, le personnage principal de Dragon Ball. Nous nous trouvons au temple de Huaiyan, un haut lieu touristique de Datong dans la province de Shaanxi. Depuis la sortie du jeu vidéo Black Myth Wukong, le tourisme a connu des records. Les raisons ? Les décors du jeu s'inspirent largement des vieilles bâtisses traditionnelles chinoises de cette région, comme nous l'explique She, notre guide touristique.
C'est à Shaanxi que l'on trouve l'architecture la plus ancienne, datant d'avant la dynastie Tang. Que ce soit pour l'art en surface ou dans les souterrains, c'est à Shaanxi qu'il faut venir. Le climat et les conditions géographiques uniques ont permis à ces bâtiments anciens de rester intacts tout ce temps.
Dans un recoin de la cour principale, nous retrouvons de jeunes touristes venus exprès pour fouler les lieux que l'on retrouve dans Black Myth.
Je n'ai pas terminé les jeux, je ne peux donc en faire l'expérience que par le biais du tourisme. Je ne peux pas passer les niveaux, mes mains ne peuvent pas suivre.
Sur les 36 lieux repérés pour créer le jeu, 27 d'entre eux se trouvent dans le Shaanxi. Un jeune policier s'approche de la table où se trouve un tampon avec l'insigne de Wukong. Il sort un carnet blanc.
Ça, c'est le dépliant d'achèvement du jeu. C'est comme un passeport de l'histoire du jeu. Vous devez obtenir un tampon à chaque endroit.
Son supérieur le rappelle à l'ordre avec un sourire aux lèvres. Nous montons ensuite dans le taxi de Yue qui nous mène sur un deuxième lieu très prisé des touristes, les grottes de Yungang, où se trouvent près de 50 000 statues de Bouddha taillées dans la roche.
Ce jeu a vraiment boosté le tourisme culturel de Datong. C'est assez impressionnant. Grâce à Black Myth, le tourisme dans le Shaanxi est devenu très dynamique.
De retour à l'hôtel, on nous confirme que l'établissement est plein à craquer depuis cet été et pour les mois à venir.
Le jeu apporte incontestablement des avantages à la population locale en termes de retombées positives pour le gouvernement et surtout l'économie.
Datong était auparavant une ville pauvre qui reposait sur ses mines de charbon. Mais l'essor du tourisme change son visage car, comme le dit notre guide, si les ressources finissent par tarir, la culture, elle, est inépuisable. Cléa Broderst, Xiang Yuan She, Datong, RFI.
RFI 8h22, à Londres, coup de téléphone en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne où la population a augmenté d'1% entre juillet 2022 et juin 2023. Alors 1%, cela paraît très peu, pourtant c'est la plus forte croissance démographique pour le Royaume-Uni depuis 1971. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
En ligne, en direct avec nous de la capitale britannique, il y a au Royaume-Uni 662 000 personnes de plus sur cette durée et cette augmentation, Emeline, est due à l'immigration.
Et oui, parce que le nombre de Britanniques, lui, il diminue. Il y a eu plus de décès que de naissances sur l'année étudiée. Et c'est la première fois depuis les années 70, si l'on exclut l'année 2020 et la pandémie de Covid. Alors les experts de l'Organisme National des Statistiques avaient bien prévu un solde naturel négatif, mais seulement dans les années 2030, pas si tôt. Dans le même temps, même si 500 000 d'habitants ont quitté le pays, ils sont deux fois plus à s'y être installés, suffisamment pour contrebalancer le solde naturel et migratoire. C'est donc en raison de ces arrivées que la population britannique a augmenté d'environ 600 000 personnes.
Près d'1 200 000 arrivées enregistrées. Emeline, qui sont ces gens? D'où viennent-ils?
Alors, l'immense majorité des nouveaux arrivants sont des détenteurs de visas. Ils viennent principalement pour étudier ou pour travailler, plus marginalement pour rejoindre un membre de leur famille. L'ONS ne fournit pas de données par nationalité, mais on sait que l'immense majorité de ces titulaires de visas viennent de pays hors Union européenne. Les ressortissants de l'UE représentent à peine 100 000 arrivées. L'immigration au Royaume-Uni, ce sont également les demandeurs d'asile et les arrivées clandestines. Mais ces deux routes ne représentent qu'une minorité des arrivées, une centaine de milliers de personnes environ. Alors les réfugiés viennent en majorité d'Asie, Afghanistan, Iran, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Hong Kong aussi. Des nationalités qu'on retrouve également chez les candidats à l'asile qui traversent la Manche illégalement.
Et pourtant, c'est un paradoxe, hein, Emeline. L'attention médiatique et politique se concentre sur ces deux types d'immigration mineure, l'asile, les arrivées clandestines.
Oui, on se souvient que le gouvernement conservateur précédent avait même le projet de mettre fin de facto au système d'asile pour dissuader l'immigration illégale. Alors le nouvel exécutif travailliste a adouci le discours, mais l'objectif reste le même, faire diminuer les arrivées clandestines, ce qui alimente les discours anti-immigration pas toujours versés dans la nuance. On en a eu la preuve cet été avec des manifestations d'extrême droite et la multiplication d'incidents xénophobes et racistes. Compte tenu du solde naturel négatif dont on parlait, l'immigration pourrait s'avérer vitale pour soutenir une économie vieillissante. Pourtant, dès ce mardi soir, les journaux les plus à droite et les tabloïds ici s'alarmaient de la population, de la proportion croissante de, je cite, des résidents nés hors Royaume-Uni au sein de la population, notamment de l'impact de ces arrivées sur des services publics sous-financés depuis des années.
Emeline Vin, en direct de Londres sur RFI. Bonne journée à vous. Dans 4 minutes, l'actualité africaine. Mais d'abord, voici notre question d'environnement. Comment exploiter durablement et de façon responsable les minerais de la transition? On en parle avec vous, Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Pour sortir définitivement des combustibles fossiles, maîtriser le réchauffement climatique, il faut absolument développer les énergies renouvelables qui demandent une grande quantité de ces minerais. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'il faut investir 800 milliards de dollars d'ici 2040 dans ces minerais critiques, pour atteindre les objectifs fixés lors de la COP28 à Dubaï.
Oui, investir massivement et rapidement, car, rappelle l'Agence internationale de l'énergie, bien aujourd'hui, à l'échelle mondiale, nous ne parviendrons pas à tripler nos capacités d'énergie renouvelable d'ici à 2030, comme convenu lors de la COP28. Il faut donc accélérer pour combler ce retard, mais pour les défenseurs de l'environnement, eh bien, pas question d'ignorer les impacts négatifs liés à l'extraction de ces minerais. Nicolas Nass est chargé de la campagne Transition énergétique chez Greenpeace France.
Quand on regarde la situation actuelle, on a une forte dépendance des pays du Nord envers les pays du Sud où sont extraits la plupart des minerais, avec des conséquences environnementales mais aussi sociales qui sont très très importantes. On peut parler notamment de toutes les mines qui a lieu dans les territoires qui sont occupés par des populations autochtones. Et donc c'est un vrai point de vigilance là-dessus, de réussir à soit développer des mines ailleurs, soit le faire en accord avec ces populations autochtones, de façon à ce qu'elles aient elles aussi des retombées positives, qu'elles soient environnementales ou économiques.
Donc respect des droits des peuples autochtones, lutte contre la pollution, interdiction d'exploiter ces minerais dans les zones sensibles, comme les grands fonds marins par exemple. Nos besoins en minerais de la transition ne doivent pas nous conduire à des comportements irresponsables.
Alors c'est vrai que passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, c'est une des clés de la transition. Il ne faut pas pour autant oublier un autre objectif fondamental, Igor, la réduction de notre consommation d'énergie.
Oui, sobriété et responsabilité, sachant que près de la moitié des minerais de la transition utilisés d'ici 2040 serviront à fabriquer des moteurs électriques. Et il revient à chaque citoyen de se demander s'il a vraiment besoin d'une voiture électrique. Il faut également améliorer l'efficacité énergétique, c'est-à-dire réduire la quantité d'énergie utilisée pour un même résultat. Le meilleur exemple, c'est l'ampoule LED qui éclaire aussi bien en consommant beaucoup moins. Et puis, il faut cibler certains minerais plutôt que d'autres. Nicolas Nass de Greenpeace France.
On a d'autres technologies qui émergent, qui sont basées sur des minerais qui sont soit plus abondants, soit dont l'extraction est moins difficile, pose moins de problèmes environnementaux. On pense notamment au cobalt. Et même si aujourd'hui, ça coûte peut-être un peu plus cher, il vaut mieux privilégier les minerais qui ont un impact environnemental plus faible, parce que on ne prend jamais en compte le coût de ces conséquences environnementales, que ce soit au niveau local ou même au niveau planétaire.
La crise climatique exige des changements audacieux. Et pour les défenseurs de l'environnement, la seule chose qui nous arrête pour l'instant, c'est le manque de volonté politique, Nathalie.
Igor Strauss avec nous dans RFI Matin pour cette question d'environnement. On vous retrouve demain dans une minute l'actualité africaine. Et puis les sports en compagnie d'Olivier Pron, RFI Matin. On est ensemble pour une demi-heure encore.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Pour entendre le son des tambours à fente du Vanuatu, des chants du Niger ou la musique qui accompagne le dernier repos dans les plaines du Kazakhstan, direction le musée du Quai Branly, car la musique est au cœur de l'ethnographie. Le musée s'est donc doté d'une nouvelle bande-son.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
En sélection pour le prix Goncourt et le prix Médicis, le nouveau roman d'Abdellah Taïa est en effet un livre qui ne laisse pas insensible. L'histoire d'un homme qui rentre chez lui au Maroc et qui se souvient de son adolescence brisée par la violence, celle exercée contre les homosexuels, un récit choc intitulé « Le bastion des larmes ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.